et surtout des informations. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le Tour de France régional d'Emmanuel Macron fait étape à Bordeaux aujourd'hui. Ce nouvel échange entre le chef de l'État et une cinquantaine d'élus dans le cadre du grand débat national a été précédé d'une rencontre avec Alain Juppé, lequel doit lui rendre aujourd'hui la démission de son mandat de maire de la capitale girondine.
Dans votre journal également, l'épineuse question du retour des enfants de djihadistes français en Irak et en Syrie.
Oui, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a expliqué que d'un point de vue juridique, nous n'aurions pas le droit d'aller sur place, de prendre ces enfants et de les rapatrier pour les protéger. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui en Algérie. Le mot d'ordre reste toujours le même. Non à la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
En pleine campagne électorale, le procureur général israélien a annoncé hier son intention d'inculper Benjamin Netanyahou pour
une décision présumée. Oui, une décision attendue, mais qui, 40 jours avant les législatives anticipées, est susceptible, si elle est confirmée, de changer la donne électorale.
La colère monte contre Viktor Orban au sein de la droite européenne.
La colère, oui, et hier, pour la première fois, des élus du PPE ont réclamé l'exclusion du Premier ministre hongrois. Enfin, invité de la page Europe aujourd'hui, l'eurodéputé José Bové, vice-président de la Commission Agriculture et Développement Rural au Parlement européen. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va repartir de cette affaire dite de la Ligue du LOL pour s'interroger avec notre invitée, la romancière Sandra Lucbert, sur les rapports de domination. Comment se sont-ils déplacés, nos traditionnels rapports de domination, vers la toile, comment ils se reproduisent aujourd'hui, ce sera le sujet et l'objet donc de la grande table des idées tout à l'heure.
Merci et à tout à l'heure. Emmanuel Macron et Alain Juppé auraient-ils pu trouver plus belle occasion que la journée mondiale du compliment pour se retrouver ce matin autour d'un petit déjeuner à Bordeaux. Il faut dire que cette journée du 1er mars est en effet particulière à plus d'un titre puisque c'est aussi le jour qu'a choisi le maire emblématique de la capitale girondine pour quitter officiellement la vie politique active en allant rejoindre les bancs du Conseil constitutionnel. En d'autres termes, non seulement cette visite présidentielle aura offert à Emmanuel Macron l'opportunité de venir saluer la fin de mandat de celui qui est devenu aujourd'hui l'un de ses soutiens politiques, en particulier s'agissant de sa vision européenne, mais elle l'aura également permis à Alain Juppé, juste avant donc de remettre officiellement sa démission, d'ouvrir ce matin les discussions entre une cinquantaine d'élus girondins et le chef de l'État dans le cadre du grand débat national. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors il se trouve qu'à Bordeaux, et peut-être davantage que partout ailleurs, ce débat trouve tout son sens puisque samedi après samedi, la ville de Bordeaux fait face depuis le 17 novembre dernier à une très forte mobilisation des Gilets jaunes, d'où cette question, Anne, pourquoi cette métropole plutôt bourgeoise, autrefois surnommée la Belle Endormie, est-elle devenue le fer de lance du mouvement contestataire ?
Eh bien, tout simplement parce que le développement de l'agglomération bordelaise est peut-être l'exemple type de ce que dénoncent les Gilets jaunes, un témoin des effets de la métropolisation et de la mondialisation, du fait du développement économique, de l'apport d'une population qualifiée. Il y a eu un boom spéculatif, les loyers ont été multipliés par 3 ces 25 dernières années à Bordeaux et conséquence, les classes moyennes et les classes populaires n'ont plus la possibilité de se loger en ville alors qu'elles continuent à travailler dans l'agglomération. Ce qui alimente d'ailleurs chaque matin d'énormes bouchons pour accéder au centre-ville. La colère jaune semble par ailleurs avoir revitalisé toute la tradition politique de gauche du département de la Gironde. C'est l'analyse de Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Il habite Bordeaux et il s'est rendu à plusieurs reprises dans les cortèges du samedi.
C'est vrai qu'il y a un effet de déformation depuis Paris, parce qu'il y a eu Chaban et Juppé et que ça apparaît comme une ville de droite. Mais en réalité, Bordeaux n'est qu'une petite partie de la communauté de la CUBE et ne représente qu'un quart de la ville et encore moins, bien sûr, de la Gironde. C'est 200 000 habitants sur 1 600 000 Bordeaux, ou dans un département qui est très à gauche, avec beaucoup de traditions de cette culture politique qu'on voit ressortir là, cette fois-ci dans le centre-ville.
Ce qui fait qu'à part les scènes de pillage vues un peu partout en France en décembre dernier, les manifestations sont bien encadrées chaque samedi, plutôt calmes, sauf au moment de la dispersion en fin d'après-midi. Depuis 2 mois, les cortèges réunissent en moyenne entre 4 000 et 6 000 personnes. La moyenne d'âge est de 40 à 50 ans, selon Pierre Vermeuren. Et cette régularité dans la mobilisation a d'ailleurs amené aujourd'hui les autorités à reporter le marathon de Bordeaux prévu le samedi 27 avril au mois d'octobre prochain.
Merci Anne Fauquemberg. Et c'est donc à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu expliquer ce matin à la télévision qu'une attaque terroriste déjouée était en préparation pour le 17 novembre, premier jour de mobilisation des Gilets jaunes. En réalité, le ministre n'a fait là que confirmer une information déjà connue le 19 novembre dernier, selon laquelle 4 personnes avaient effectivement été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. En revanche, et 3 mois plus tard, donc, le ministre n'a pas davantage précisé le lieu de l'attaque présumée, ni clairement indiqué si les gilets jaunes étaient ou non spécifiquement visés. Autre déclaration ce matin, toujours du ministre de l'Intérieur, s'agissant cette fois-ci de l'épineuse question du rapatriement d'enfants de djihadistes français signalés en Syrie. Selon lui, d'un point de vue juridique, nous n'aurions pas le droit d'aller sur place, de prendre ces enfants et de les rapatrier pour les protéger. Ce serait une violation totale du droit de l'enfant, a-t-il déclaré. Florence Turme, bonjour.
Bonjour.
Alors, au regard des règles du droit, le ministre a-t-il raison d'affirmer cela ?
Si les enfants ont des parents, ce n'est pas à l'État de décider, ce sont les parents qui doivent décider, précise Christophe Castaner dans son intervention sur France 2. En France, la justice, en l'occurrence les juges des enfants, sont tout à fait légitimes à retirer des enfants de leur famille s'ils estiment qu'ils sont en danger. La question est donc aujourd'hui davantage de savoir comment intervenir en Syrie. Le rapatriement des enfants, pourtant envisagé par les autorités françaises à l'automne dernier, ne semble plus désormais à l'ordre du jour. Les forces démocratiques syriennes ont fait le choix de ne pas séparer les enfants de leur mère, nous indique ce matin la chancellerie. Cette décision s'impose à nous. On estime à plus d'une centaine le nombre d'enfants retenus avec leur mère, mais certains orphelins, dans 3 camps situés au nord-est de la Syrie, en grande majorité des moins de 6 ans, dans des conditions d'hygiène et de sécurité extrêmement précaires, témoignent les observateurs sur place. En décembre, Paris a procédé au rapatriement de 3 des 4 enfants de la Française Mélina Bouguédir, condamnée à perpétuité par la justice irakienne. Un rapatriement organisé alors au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, avait déclaré le Quai d'Orsay. L'intérêt supérieur de l'enfant qui reste un principe fondamental du droit international, au nom duquel d'ailleurs un collectif d'avocats vient de déposer plainte contre la France auprès du Comité consultatif des droits de l'homme à l'ONU. Dans ce dossier, vous l'avez compris, les éléments juridiques croisent aussi des considérations diplomatiques et politiques au regard également d'une opinion publique qui, dans un sondage ce matin, Thomas, s'exprime majoritairement contre le retour des enfants sur le territoire français.
Merci Florence Turme. Effectivement, parce que les grands principes du droit ont parfois des règles qui échappent à la raison populaire, un sondage pour le Figaro nous apprend non seulement que 82% des personnes interrogées approuvent le jugement des djihadistes français en Irak, en clair une très grande majorité ne veut pas voir revenir les ressortissants français qui ont rejoint les rangs de Daesh, mais aussi que 67% des sondés souhaitent laisser les enfants de djihadistes en Irak et en Syrie. Précisons par ailleurs que cette étude Odoxa rappelle que certains de ces enfants sont pourtant orphelins et que pour de nombreux autres, leurs parents seront probablement condamnés sur place à de longues peines de prison ou à la peine de mort. L'Académie française a adopté hier à une large majorité un rapport sur la féminisation des noms de métiers. Les gardiens du bon usage du français ne voient aucun obstacle de principe à cette évolution de la langue. Et où en est-on cette fois-ci de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes? Une partie des entreprises est désormais obligée de publier son bilan en la matière et de prendre des mesures pour régulariser la situation si nécessaire. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors les 14 000 entreprises de plus de 1000 salariés ont jusqu'à ce soir pour publier sur leur site internet leur index d'égalité entre femmes et hommes. Une obligation qui sera étendue l'an prochain à toutes les entreprises de plus de 50 salariés.
Et sans surprise, pour l'instant, seules les entreprises ayant obtenu de bons résultats s'empressent de communiquer. En tout cas, leur note globale en la matière, elle est calculée avec le nouvel outil de mesure des inégalités prévu par la loi Avenir professionnel de septembre dernier. Le détail doit par la suite être transmis aux représentants du personnel des entreprises et à l'inspection du travail. Car cette note établie sur 100 s'appuie sur 5 critères. La proportion d'hommes et de femmes augmentée dans l'année, celle des femmes et des hommes qui ont eu une promotion, les augmentations au retour de congé maternité. On sait qu'avoir des enfants reste, mais pour les femmes seulement, un grand ralentisseur d'évolution dans l'entreprise. Quatrième point, la part des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations dans les grosses entreprises, c'est l'un des critères les moins bien remplis. Enfin, le plus important, 40% de la note, ce sont les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à poste et à âge comparable. Ce système a l'inconvénient majeur de ne rien dire des inégalités dans les progressions de carrière, mais a l'avantage de fournir un nouvel outil d'objectivation. L'entreprise est tenue de publier ses données et si la note est inférieure à 75 sur 100, elle a 3 ans pour prendre des mesures sous peine de sanction, une amende pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ces chiffres permettront aussi de dire si les simulations du ministère du Travail étaient justes. Elles estiment à 1% la part des entreprises de plus de 1000 salariés respectant l'égalité salariale. En France, les femmes sont en moyenne payées 9% de moins que les hommes, à poste et âge égaux. Tout poste confondu, cet écart atteint les 25%. Rappelons que ces inégalités de salaire sont interdites par la loi depuis 46 ans.
Merci Catherine Pétillon. De la procédure de divorce initiée par le Royaume-Uni jusqu'à la crise diplomatique dépeinte sur fond de toile de maître entre la France et l'Italie, c'est peu de dire que les liens de confiance apparaissent de plus en plus distendus entre partenaires de l'Union européenne. Dernier exemple en date, l'affrontement capitalistique autour du groupe Air France-KLM. Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevait son homologue néerlandais pour exiger des éclaircissements sur la prise de participation surprise des Pays-Bas dans la compagnie de transport aérien. La France et les Pays-Bas vont lancer un processus de travail conjoint destiné à renforcer la vision de l'avenir du groupe et qui rendra ses conclusions fin juin. À 3 mois des élections européennes et pour la première fois, plusieurs élus de la droite du PPE ont réclamé hier l'exclusion de Viktor Orban. Plus exactement, 4 partis membres de cette famille politique la plus représentée au Parlement de Strasbourg ont demandé de mettre officiellement l'exclusion du Premier ministre hongrois à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale prévue le 20 mars prochain. Johanna Hochstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, cela fait longtemps déjà, Johanna, que la politique illibérale de Viktor Orban apparaît en totale contradiction avec ce que défend collectivement le PPE. Mais ce qui a probablement accéléré l'initiative, ce sont en l'occurrence les dernières provocations du Premier ministre hongrois, lequel a dernièrement lancé dans son pays une campagne d'affichage prenant pour cible le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, également membre du PPE.
C'est effectivement cette campagne qui affirme que l'Union européenne veut faciliter la migration grâce aux visas migratoires, qu'elle veut donner encore plus d'argent aux organisations favorisant la migration. C'est bien cette campagne qui a été l'élément déclencheur pour plusieurs délégations au sein du Parti populaire européen. Les excès de Viktor Orban n'étaient pour nous pas admissibles. Ils sont devenus insupportables, a tweeté Maxime Prévost, le président du Parti belge démocrate humaniste. Le CDH, c'est son nom, et son homologue flamand, le CDNV, ainsi que les partis luxembourgeois et néerlandais, membres du PPE, ont donc envoyé un courrier aux instances du groupe pour demander l'exclusion du Fidesz. Les délégations portugaises, suédoises et finlandaises seraient prêtes à se joindre à cette fronde, ce qui permettrait de lancer la procédure d'exclusion puisqu'il faut que 7 partis, issus d'au moins 5 pays différents, en fassent officiellement la demande. Au sein du PPE, on sent pour la première fois que la rupture est possible, me confie un fonctionnaire. Même la CSU et la CDU ont fait savoir la semaine dernière que trop c'est trop, et c'est important car ce sont les deux formations les plus importantes au sein du PPE et qu'elles ont toujours été très en faveur de garder l'enfant terrible, comme on l'appelle ici dans la famille. Le dialogue et les menaces ne fonctionnent plus, reconnaît-on ici. Des consultations sont donc actuellement en cours pour voir si les Allemands soutiennent eux aussi cette procédure d'exclusion.
Merci Johanna Hochstein en direct de Bruxelles. Même si elle était attendue, l'annonce hier du procureur général israélien n'en reste pas moins un coup de tonnerre dans la campagne électorale. Il entend inculper Benjamin Netanyahou dans 3 affaires de corruption. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors, comme on pouvait s'y attendre, Benjamin Netanyahou a aussitôt martelé à la télévision que ces accusations étaient sans fondement. Reste qu'à 40 jours des élections législatives anticipées, eh bien, elle place le Premier ministre dans une bien mauvaise posture, Étienne, lui qui entend postuler un 5e mandat.
Oui, c'est difficile pour l'instant de mesurer l'impact sur l'électorat de droite, mais on sent l'inquiétude dans le camp du Premier ministre. Hier, Benjamin Netanyahou a pris à nouveau le créneau du 20h à la télévision. Il a assuré lui-même sa défense devant l'opinion publique. Il s'est d'abord positionné comme le seul homme d'État capable de conduire la destinée du pays. Il a rappelé qu'il avait un lien privilégié avec les États-Unis, avec la Russie. Hier, Donald Trump l'a d'ailleurs soutenu et le président brésilien a fait savoir qu'il viendrait en Israël 9 jours avant ces élections. Le Premier ministre israélien a aussi directement fait un appel à ses électeurs. Il a accusé la gauche d'avoir mis la main sur les institutions pour tenter de le faire tomber. Il alimente la théorie d'un soulèvement contre la droite. La campagne s'oriente vers le soutien ou l'affaiblissement de l'état de droit en Israël. Les formations qui ambitionnent de faire partie de sa coalition ont affiché leur soutien. Un seul parti, le parti centriste Kulanu, est pour l'instant resté silencieux. La différence, le 9 avril, pourrait se faire à la marge. Le nouveau parti centriste bleu-blanc représente une véritable alternative. Plusieurs figures au sein de cette formation sont capables d'aimanter à droite, mais ses partenaires potentiels pour une coalition restent fragiles. Israël entre donc maintenant dans l'inconnu. C'est la première fois qu'un premier ministre en exercice est sous le coup de poursuites. L'actuel premier ministre est en sursis. S'il est élu, il risque d'être l'otage d'une coalition placée aux extrêmes et sa situation personnelle sera ouvertement mêlée à sa situation politique.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem. Après leur première rencontre en tout point historique, c'est peu de dire que le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura, lui, déçu toutes les attentes hier. Non seulement la rencontre a tourné court, les deux camps se séparant sans déclaration conjointe, mais surtout chacun aura bien paru déterminé à camper sur ses positions tout en imputant à l'autre la responsabilité de l'impasse. Ce matin encore, difficile de démêler donc le vrai du faux quand Donald Trump affirme que Pyongyang aurait exigé la levée de toutes les sanctions qui lui sont imposées du fait de ses programmes nucléaires et balistiques interdits. La Corée du Nord soutient de son côté qu'elle n'a demandé qu'une levée partielle de ses restrictions. Et puis ce sommet n'aura pas seulement été un échec diplomatique cinglant pour Donald Trump, puisqu'il aura également donné l'occasion au chef de la Maison-Blanche de déclencher une nouvelle polémique aux États-Unis en déclarant croire sur parole le dictateur nord-coréen, lequel lui a affirmé n'avoir eu aucun rôle dans la mort en 2017 d'un étudiant américain rapatrié dans le coma après son incarcération en Corée du Nord. Le Pakistan rouvrira partiellement son espace aérien d'ici quelques heures, c'est ce qu'a annoncé ce matin l'autorité de l'aviation civile pakistanaise. Et puis, toujours face aux craintes d'un nouveau conflit entre ces deux puissances nucléaires, Islamabad a décidé, pour apaiser les tensions, de libérer le pilote indien dont l'avion avait été abattu cette semaine au Cachemire pakistanais. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui à travers toute l'Algérie contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, une mobilisation que le camp au pouvoir ne manquera certainement pas de scruter à l'approche de l'expiration de la date de dépôt des dossiers de candidature dimanche prochain. C'est une correspondance à Alger signée Laïla Berato.
L'appel à manifester a été lancé pour le début de l'après-midi, après la prière. On s'attend à une mobilisation très importante, plus importante que celle de la semaine dernière, car le calme dans lequel se sont déroulées les différentes manifestations de vendredi dernier dans tout le pays a rassuré. Ces derniers jours, des messages ont circulé sur les réseaux sociaux pour unifier les slogans, appeler à éviter toute violence et à porter des drapeaux algériens, mais aussi pour connaître ses droits en cas d'arrestation et savoir comment se protéger du gaz lacrymogène. Et c'est cette mobilisation-là qui laisse penser qu'il y aura beaucoup de monde cet après-midi dans tout le pays. Des manifestations ont déjà démarré ce matin dans plusieurs villes, notamment dans les régions de Sétif, Bouira et Tiaret. Les mots d'ordre sont les mêmes, non au cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Dans la capitale, où selon la loi les manifestations sont toujours interdites, un important dispositif de sécurité anti-émeute a été déployé sur les hauteurs mais aussi dans le centre de la ville et les hélicoptères des forces de l'ordre survolent Alger depuis ce matin. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle mais aussi des organisations de la société civile ont apporté leur soutien à ces manifestations. Un collectif d'associations a notamment lancé un appel pour que la société civile s'implique pour accompagner et porter le mouvement.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule piégé hier soir dans la capitale somalienne Mogadiscio. Attentat suivi d'affrontements à l'arme automatique ce matin entre un commando d'islamistes radicaux Shebab et les forces de sécurité à Mogadiscio. L'invité Europe de la rédaction à présent aujourd'hui, José Bové, vice-président de la Commission Agriculture et Développement Rural au Parlement européen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Première question, monsieur Bové. Vous êtes eurodéputé depuis 2009. Vous avez annoncé que ce serait votre dernier mandat. Après ces 10 années élus au sein de cette institution, quel bilan en général tirez-vous de l'évolution de l'UE?
Ah, écoutez, d'abord, le Parlement européen, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des parlements au niveau international qui travaille de la manière la plus intéressante. D'abord, parle en 24 langues, ce qui est quand même pas rien, et surtout c'est un jeu de démocratie où aucun groupe ne peut être majoritaire et donc toutes les décisions doivent faire l'objet d'un compromis. Donc il y a un débat permanent, sujet par sujet, et contrairement au Parlement français, ce n'est pas un lieu d'affrontement. Et donc je trouve que ça, c'est une forme de démocratie très nouvelle sur le continent européen et qui est très importante à faire vivre vraiment parce que c'est comme cela qu'on fait des avancées.
Une question d'Annabelle Grolier.
Alors la prochaine renégociation du budget de la politique agricole commune, la PAC, est l'un des gros dossiers sur la table. Vous faisiez partie de ceux qui se sont farouchement opposés à ce qu'elle soit négociée avant les élections, comme le souhaitait la Commission. Vous avez obtenu gain de cause. Quels en sont aujourd'hui les enjeux ?
Mais écoutez, les enjeux sont assez simples. C'est que d'abord, la Commission voulait imposer un budget pour l'ensemble de l'Union européenne avant les élections, ce qui était déjà en soi un scandale. On est arrivé à faire dans un premier temps repousser le débat sur le budget après les élections, donc ça devrait être à l'automne. Mais malgré cela, la Commission européenne voulait que la politique agricole commune, elle, soit votée avant. C'est-à-dire sans budget, sans savoir quelles vont être les conséquences du retrait de la Grande-Bretagne du type de Brexit qu'il y aura. Bref, on était dans une situation incroyable où on voulait nous imposer un certain nombre d'éléments très concrets, une baisse des aides directes aux agriculteurs de 12 à 15%, une baisse des aides environnementales, donc le deuxième pilier de 25%, tout ça sans connaître véritablement les enjeux. Donc on est arrivé à empêcher qu'il y ait un vote en plénière avant la fin du mandat, et ça je crois que c'est une bonne chose. Je dirais qu'il faudrait qu'on aille plus loin et que dans le cadre du débat qui va s'ouvrir pour les campagnes des élections européennes, vraiment les citoyens, les différentes forces en présence, puissent débattre de quelle agriculture on veut pour l'Europe demain.
Alors, au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a appelé à la souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle de l'Europe. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, mais il y avait aussi le Rassemblement National qui ont crié au mensonge. Vous, José Bové, vous qualifiez plutôt les propos du président de double langage.
Alors, je parle, moi, de double langage, puisque quand j'entends et que j'écoute le président de la République, je trouve que ce qu'il dit va dans le bon sens et je ne pourrais qu'applaudir. Mais en réalité, quand je vois ce que fait le ministre de l'Agriculture, la façon dont les autorités françaises, l'État français négocie à Bruxelles, à aucun moment l'État français ne s'est opposé, par exemple, au fait qu'on puisse mettre en œuvre la politique agricole avant les élections, ce qui est un hold-up démocratique. Et à aucun moment, je n'ai entendu la France dire très clairement on est contre la baisse des aides directes, on est contre la baisse des aides environnementales. Donc je crois que par rapport à ça, il y a un énorme problème et qu'on ne peut pas avoir un double discours en permanence. Il faut que les actes soient en cohérence avec les discours.
D'autant que ce double discours joue aussi sur la cohérence européenne et pour les citoyens.
Ce discours, il pose un problème parce que on voit bien les combats qu'on a dû mener sur la question du glyphosate, sur la question du dossier de l'agriculture biologique, sur la question des lobbies en général. On voit comment les citoyens sont très sensibles à cette question de qualité alimentaire. Et en même temps, on voit aussi que la France, qu'elle essaye d'avoir un discours sur la souveraineté alimentaire, eh bien, fait partie des pays qui acceptent et ne remettent pas en cause les accords de libre-échange, alors qu'on aurait pu mettre son veto. Je pense notamment à l'accord qui a été signé avec le Canada et qui est rentré en œuvre, mais à ceux qui sont en train d'être négociés avec le Mercosur ou éventuellement qui pourraient reprendre avec les États-Unis, ce qui paraît tout à fait incroyable.
Alors l'agriculture, évidemment, dernière question, a un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. Alors comment se situe l'agriculture française ou comment devrait-elle se situer aujourd'hui dans la trajectoire européenne ?
Alors, le drame, c'est qu'on n'a pas de trajectoire européenne si on suit les propositions de la Commission. On est en train de renationaliser les politiques, c'est-à-dire que chacun des 27 États membres, ou 28 peut-être, auront une politique différente, donc il n'y a pas de cohérence sur la question, justement, du maintien de la fertilité des sols, sur la question de l'agriculture biologique, sur la question, par exemple, du dossier des protéines végétales, puisqu'il n'y a rien par rapport à ça. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que si on va au bout du processus avec les diminutions d'aides telles qu'elles sont prévues, ce sont les secteurs notamment d'élevage en plein air, extensif, massif central, donc les élevages bovins et ovins, qui vont être les plus pénalisés. Donc on va détruire des pans entiers de nos territoires où les paysans vont disparaître. Et c'est pas comme ça qu'on va permettre d'avoir une agriculture qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'agriculture, si on a une agriculture en cohérence avec les débats sur le carbone, bien l'agriculture paysanne peut être une solution et pas un problème au réchauffement climatique.
Et on terminera là-dessus. Merci José Bové, vice-président, je le rappelle, de la Commission Agriculture et Développement Rural au Parlement européen d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Annabelle Grelier et pardon pour cette liaison téléphonique capricieuse. On termine avec un mot rapide de météo. Seules les régions méditerranéennes, le sud des Alpes et la vallée du Rhône garderont un ciel ensoleillé partout ailleurs. Nuages et précipitations, les températures elles seront généralement comprises entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.